Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 29 mars 2014. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Jeanne O'Dead. Et à 17h, FMR, celle de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. J'ai l'impression de lire ça depuis 20 ans. Mais dans l'immédiat, voici... C'était pas marqué. Que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Le plus jeune écossais de la bande, Daniel Portman, c'est lui le DJ dont tu parlais avant, quoi. Ouais. Hein, parce qu'il a ses deux activités, acteur et comédien, quoi. Alors il est né en 90.
Acteur et comédien, celle-là tu ne l'avais pas
acteur,
fait.
Acteur et musicien, pardon. Musicien. Bah, c'est pas la même chose.
En plus, c'est vrai. Il a raison. Il a raison.
Radio FMR présente
It's First April!
Le supplément week-end.
Alors voilà le topo, on est perdu dans l'espace depuis le 13 septembre 99. Et on a bientôt plus rien à bouffer. Ah si, il reste des œufs.
Et même si on vient combattre tout droit dans le mur,
ouais bah eh, oh ça va, ça ne s'empêche pas
de vivre plein d'aventures.
Et même si au niveau garde-robe on a que des pyjamas, bah c'est des Yuji Yamamoto et des Asdinalaya. Et puis pour s'occuper de l'ordinateur, des logiciels et programmes, bah c'est vraiment pas terrible, hein. On a juste le professeur Berman.
C'est moi. Et oui, car depuis le 13 septembre 99, on n'a pas compris ce qui s'est passé, mais y'a eu une catastrophe. Et maintenant on est coincé dans l'espace sur cette putain de lune. Saloperie de putain de planète, sa mère, la pute, la lune, l'orbite, plus où tu peux jamais.
Oh, trou noir. Avec une équipe de
cosmos 1299. Badabadabam. Intro signé par Mosinor. Et on a la prog musicale et tout. C'est un remake du générique de Cosmos 99 qui me fait beaucoup rire à chaque fois.
Ouais, sauf que là on n'a pas eu de générique en fait.
Oui, mais en son ça marche très bien.
Bon, d'accord.
Bah, de toute façon, on mettra le lien sur la fiche de l'émission du Supplément Week-end numéro 380. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ultimatum.
Salut Xavier.
Bonjour du sport.
Tu vois, dans le temps, on disait tu tapes en touche et maintenant tu dis on mettra un lien.
Vive la joie du podcast, du différé, de la documentation, de l'hyperlien et tout ça. Et la semaine dernière, dans l'émission, si vous avez écouté, nous étions avec l'ensemble, enfin une bonne partie hein, quand même, de l'équipe organisatrice TGS événement pour le Toulouse Game Show Spring Break qui aura lieu prochainement 12 et 13 avril.
Ouais, il y avait pas les nanas en costume qui sont à l'entrée généralement.
Ouais, parce qu'elles passent pas la porte du studio en fait.
Exactement.
Avec l'épée, tu sais, en mousse et tout.
Oui, les ailes et tout.
Voilà.
Et les coiffes.
Et dans ce cas-là, si on fait la partie agenda dès maintenant, je tiens à vous signaler que d'abord nous serons en condition du direct. On fera un enregistrement au TGS Spring Break d'un supplément week-end exceptionnel qui, à mon avis, risque de durer bien 2 heures, bien tassé, voire même peut-être au-delà.
Et est-ce qu'on se risque à dire qu'on vient cosplayer ou pas? Enfin,
vous.
Moi j'ai mon cosplay qui est prêt. Hein.
Oui, c'est vrai que toi t'as ton cosplay.
Du sport, il peut se cosplayer quand il veut en supporter de foot.
Ah, moi je peux, moi.
Non, mais non, bon, ça va pas parler. J'ai essayé la coiffe de Sonic, elle me va pas.
La coiffe de Sonic.
Désolé.
On avait une perruque de Maliki à une époque, mais je l'ai plus. Il va falloir trouver un truc là.
Ouais. Est-ce que vous savez ce qui se passe ce soir à 2h du matin?
À 2h du matin.
Confession intime sur la 6.
Non, il sera 3h.
Ah bah oui, c'est vrai.
Oh, putain, on change d'heure. On change d'heure. Et qu'est-ce qui se passera dans ce cas-là ce week-end? Bah en fait, qu'est-ce qui se passe depuis maintenant? À midi pile. D'ailleurs, depuis 4 minutes, c'est le lancement des 23h de la bande dessinée sur 23hbd.com. Donc, c'est le principe, c'est un exercice, hein, ni plus ni moins, ouvert à tous, aux amateurs, aux professionnels. Ça part donc de l'exercice 24 heures à bande dessinée, sauf que là il y a une heure de moins, mais toujours le même problème, faut faire 24 planches, faire 24 un album complet, une histoire complète, donc avec une couverture.
C'est pas 24 planches puisque c'est 23 maintenant pour les 23 heures la BD, je crois.
Je ne sais pas, allez voir en tout cas effectivement sur 23hbd.com si vous voulez y participer, c'est encore le moment avec plus ou moins de contraintes. Allez en profiter, ça vaut le coup.
Ah bah oui, il faut aller voir sur le site pour voir les planches en train de se faire.
Voilà, parce qu'il y a les 24 heures qui ont lieu juste avant le festival d'Angoulême chaque année, le jour d'avant, et à chaque fois, on se prend quand même de sacrées claques sur, sur les choses qui arrivent. Au niveau artistique, il y a toujours quelque chose qui se passe, mais cette fois-ci, c'est un lieu d'exposition qui ouvre. Mon Dieu, savez-vous que FMR, assise au 9 boulevard des Minimes, juste à côté de la gare, sur le canal, et que nous nous convertissons, ça fait des années qu'on en parlait, enfin on le fait, en espace d'exposition. Ça commence ce soir d'ailleurs, avec, là on est en plein dans les cimaises et montages, il y a même un échafaudage d'ailleurs en plein milieu du studio, c'est un petit peu désagréable, avec en première artiste invité, Reb Sharpay. C'est du pochoir, du canevas, des sculptures. Il y a un vernissage ce soir à partir de 19h pour la première exposition de l'espace éphémère. Juste une chose, ce sera en plus un vernissage avec une interview. On retrouvera d'ailleurs tout au long de la semaine dans le 12-13 cet artiste.
D'accord. Si je me trompe. Donc si vous ne savez pas quoi faire, ou si vous habitez à côté de la gare ou à côté du boulevard des Minimes, 9 boulevard des Minimes à 19h, c'est à côté de la gare, vous longez un peu le canal et puis vous tombez sur nous. Il y a une grosse plaque avec le logo d'FMR en métal à l'entrée, vous pouvez pas vous tromper.
Ah oui, le plasticien qui a fait la plaque, il a les doigts de fée.
La fibre artistique.
Ouais. Puis à mon avis, il faut pas le faire chier.
Voilà. Je suis sûr qu'il fait une super émission en plus.
Ouais, je crois qu'il a pas terminé là à préparer d'ailleurs, il est en train de lire quelque chose.
Du sport, t'es là.
Jeudi 17, alors 12-13 avril à Diagora, Toulouse, c'est le TGS Spring Break, on en a parlé en long, en large, en travers, je vous ramène à l'émission de la semaine précédente. Et le jeudi suivant, le jeudi 17 avril à l'Utopia à 20h30, la projection unique du documentaire Game Over, le règne des jeux vidéo, de Pierre-Martin Delpierre, suivi d'un débat avec Olivier Moko, auteur de Jeux vidéo hors de contrôle et de GTA 4, l'envers du rêve américain. Ainsi, il est game designer, il fait partie d'ailleurs du collectif French Co. C'est le collectif French Co qui co-organise ça avec Game in Society. Donc ce sera à l'Utopia, c'est une projection unique, ça vaudra peut-être l'occasion d'aller voir ça, c'est sûrement très intéressant.
Exactement.
Il commence à avoir une belle écriture critique sur le jeu vidéo. C'était le cas depuis une vingtaine d'années, mais ça commence à arriver enfin dans les médias où c'est plus les jeux vidéo font du tort, etc. Surtout qu'on s'est rendu compte que les problèmes d'expression des adolescents ne venaient pas des jeux vidéo, mais de la télé-réalité. Et là, c'est marrant, mais la télé, tout d'un coup, elle s'est calmée. Partie news, maintenant on va essayer un petit peu d'expérimenter quelque chose, puisque maintenant les parties news on va les disperser dans les rubriques, tout simplement parce qu'on a beaucoup de news cette semaine. Pour commencer, un excellent dossier qui a été publié sur comicsblog.com, Captain America, un regard sur l'histoire. C'est un dossier en 4 pages en français, très bien écrit, avec vraiment de la lecture à voir, avec une illustration, avec des liens derrière. Donc c'est à l'occasion de la sortie du nouveau film sur Captain America. Et ben on en revient à son historique et en fait à ce qu'est le personnage lui-même, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, où c'est l'effort de guerre qui est porté, c'est-à-dire que chaque citoyen devait participer, et c'est l'implication en fait, ni plus ni moins, de l'industrie du comics à l'effort de guerre, sauf que c'était avant que la guerre se déclare. Donc il y avait le côté propagande de Captain America. Ensuite, et ben, après la guerre, le personnage disparaît plus ou moins, mais en même temps, il y a la guerre froide qui arrive. Ensuite, on a le retour difficile, la chute. Dans les années 50, quand même, Captain America a été sous-titré sous le titre, pendant 3 numéros, Commie Smasher, c'est-à-dire que c'était le cogneur, ni plus ni moins, de communistes. Un peu moyen, bien évidemment, hein, on imagine. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un héros indispensable ? C'est très intéressant aussi de voir les scénaristes qui se cassent les dents, en fait, sur le personnage, puisque, bien évidemment, les démocrates aimeraient que ça soit quelqu'un qui respecte les droits de l'homme en tant qu'ancien citoyen, et d'un autre côté, les républicains qui disent il faut que ça soit quelqu'un qui pète la gueule à Saddam Hussein et qui ravage tout Bagdad. C'est chaud, bien évidemment. On va reparler d'ailleurs justement de Bagdad tout à l'heure. En tout cas, c'est un excellent dossier que je vous recommande. Vraiment, si vous ne connaissez pas le personnage, si vous ne connaissez pas toutes les implications, il est intéressant. Sur Comics Blog, donc Captain America, un regard sur l'histoire. On vous enverra les liens tout à l'heure, sinon ce sera sur l'affiche de l'émission. Un compte Facebook plutôt intéressant qui s'appelle Ichi et Fou. Le type a raconté en manga son travail. Son travail, c'est nettoyeur de la centrale nucléaire de Fukushima. Il a donc un regard un petit peu particulier puisqu'il peut approcher de près de la centrale et surtout montrer des détails qu'on ne saisit que fugitivement à la caméra, ainsi que l'ambiance sur le terrain, voire les non-dits puisqu'il n'y a pas les micros, donc le double speak, comme on dit, hein, les non-dits n'apparaissent pas forcément pendant l'arrivée des médias et tout ça. Ben là, tout d'un coup, entre professionnels, ça discute et ça dit certaines choses qu'on n'ose pas dire forcément devant les médias japonais. On a aussi quelque chose qui est arrivé sur le répondeur du supplément week-end.
Attends.
T'étais en train de te préparer, c'était pas bien, hein. Normalement, t'es en insert. Peut-être qu'il sort sur ton haut-parleur. C'est ça. Branche et rebranche le câble. Branche et rebranche le câble pour voir.
Pour écouter vos messages, tapez 1. Pour personnaliser, vous avez un ancien message. Hier à 17h16.
Oui, c'est bien la secrétaire de Monsieur Morgan Kelly pour le courrier des auditeurs de l'émission Supplément Week-end. Je vous rappelle parce que vous m'avez appelé. Voilà. Rappelez-moi. Voilà.
Morgan est quand même excusé parce qu'il a beaucoup de boulot. Mais ça nous a fait rire.
Oui, oui, on s'envoie des messages rigolos dans la rédaction de l'émission. Morgan, si tu nous écoutes, ton message est passé à la postérité, à l'antenne.
La prochaine fois, on donne ton numéro de portable.
Ah ouais, ce serait pas mal.
On a oublié de faire un petit résumé de ce qui va vous arriver dans la gueule, beaucoup de news bien évidemment, du Batman, des hommes monumentaux, de la télévision et avant tout, un message d'amour, la série Love.
Alors je vous avais déjà parlé des deux premiers tomes, donc c'est une série de bandes dessinées, je passe l'album à mes camarades, le premier qui a le bras le plus long, voilà, Love. Donc c'est une série consacrée à des animaux. Chaque tome est consacré à un animal en particulier. Le premier tome était consacré au tigre, le deuxième au renard. Et oui, du sport ça lui revient. Et maintenant le troisième tome est consacré au roi des gros animaux, c'est le lion. Et l'aventure de ce tome 3 se passe dans la savane, près de la région du Kilimandjaro. En Afrique, un jeune lion est chassé par sa tribu, endurant seuls les dangers de la savane, il suit désormais à distance les traces du mâle dominant qu'il doit absolument défier afin de réintégrer les siens. Alors voilà, donc, Label Étincelle d'Ankama. Donc le Label Étincelle, c'est une série, c'est une collection de bandes dessinées consacrée, on va dire, au plus jeune public. Alors il faut faire attention, puisque là c'est une série animalière avec des trucs pas cool qui peuvent se passer sur les animaux. Avec la cruauté de la nature, enfin on va dire la nature qui elle n'est pas cruelle, la nature, elle est naturelle.
Il faut bien qu'il mange,
il faut bien qu'il chasse. Donc c'est la chaîne alimentaire par excellence. Alors, le duo d'artistes, le scénariste, c'est Frédéric Brémaud, le dessinateur Federico Bertolucci. Mmh. Toujours sans parole. Si vous aimez Gone, voilà, c'est pareil. Enfin, pareil. En couleur, version plus européenne, ce sont à chaque fois des one-shots. Il n'est pas utile d'avoir vu les précédents tomes pour apprécier cette histoire. Début et fin à chaque fois. Toujours un petit côté, une intervention de l'homme à un moment donné pour bouleverser ce petit écosystème et puis pour justifier que les comportements animaliers changent à un moment donné dans l'histoire. Souvenez-vous, dans le tome 2, c'était l'éruption d'un volcan. Cette fois-ci, c'est autre chose. C'est aussi à base de flammes, vous verrez. Un album, forcément, comme il n'y a pas de dialogue, ça se lit très, très vite. Mais forcément, comme c'est un album avec un graphisme qui déchire sa race, donc il faut le lire plusieurs fois. C'est un exercice de style à montrer, dans, que je le dis à chaque fois, dans les écoles de bande dessinée et de mise en scène, puisque chaque cadrage est c'est fait au cordeau, il n'y a pas une once d'approximation. Le mec, il sait dessiner les animaux, il n'y a pas de problème.
C'est pratiquement naturaliste, quoi.
Ouais.
Hein, au niveau du dessin.
Il n'y a pas d'anthropomorphisme,
non,
ça,
non,
c'est sûr.
Non, non.
Alors, voilà, donc, si vous avez eu le cul troué par les deux premiers tomes, vous pouvez vous précipiter sur ce troisième. Vraiment, c'est une série de BD tellement à part, puisque justement c'est sans parole et que c'est consacré à des animaux, il n'y a pas d'homme dedans, bah forcément ça sort du lot, et selon moi c'est vraiment une série à découvrir pour les passionnés d'animaux, pour les bibliothèques qui veulent proposer des choses différentes aux enfants. C'est quand même une bande dessinée, hein, avec vraiment des planches de BD comme il faut, sauf qu'il n'y a pas de parole. Voilà, Love, tome 3, découvrez-le dans les librairies, regardez comment les dessins sont superbes, les ambiances magnifiques, travail sur la couleur, sur les contrastes, sur les luminosités, des scènes de nuit, des scènes de jour, de la pluie, de la neige, des rocheuses, du désert, enfin voilà, c'est super dépaysant. Love, tome 3, dans le label Étincelle d'Ankama, par le scénariste Frédéric Brémaud et le dessinateur Federico Bertolucci. Tiens, c'est marrant, ils s'appellent tous les deux Frédéric.
Éphémère Super en week-end 380, il est 12h17. Et on reste dans les animaux. Flap, 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 flap. Et nul.
Les chauves-souris. Et c'est vrai que, en plus, elles sont vraiment mises à contribution dans les numéros de Batman Saga qui sont sortis récemment, à savoir le numéro 22, donc numéro de mars. Le numéro d'avril vient de sortir, il est dans les kiosques depuis hier ou avant-hier, hein, c'est le numéro 23 donc de Batman Saga. Et aussi est sorti entre-temps, quoi, c'est-à-dire pratiquement début mars, le Batman Saga numéro 4 hors série. Alors attention, vu comment ça se présente et vu que c'est la fin d'un arc qui a duré pas mal de temps et de la collaboration d'un artiste qui a duré vachement de temps, eh bien il est pour moi indispensable, de toute façon pour la compréhension, d'acheter le hors-série si vous voulez bien comprendre ce qui se passe dans le 22 et dans le 23.
Et puis,
sans compter que dans ces je suis sûr que c'est ce que tu vas dire, sans compter que dans quand vous lisez ces trois magazines, vous avez également des références à des Batman Saga encore plus anciens dans les numéros 10, 14, 15, genre pour bien embrouiller, pour te dire ok, quoi, si ça passe vite, un peu largué, mais enfin c'est pas trop grave.
C'est surtout que dans le précédent Batman hors série se passait un truc vraiment super important.
Yes.
Et à chaque début de chapitre, puisque c'est plusieurs aventures dans chaque Batman saga, elles disent à chaque fois
ouais.
Et oui, souvenez-vous dans Batman hors série numéro 3, souvenez-vous dans Batman hors série numéro 3 à chaque
bon,
fois.
Bon, là maintenant c'est on va dire qu'à partir du 22 c'est digéré, quoi.
D'accord. Hein,
c'est-à-dire que bon, bah il y a pas de problème, et vu la gueule qu'il fait en couverture. Batman,
on va dire qu'il s'est toujours pas remis, quoi.
Il s'est toujours pas remis dans un, c'est les étapes traditionnelles de deuil, quoi. Hein, la renonciation, le déni, et ensuite la colère, quoi. Il est en plein dedans, vraiment en plein dedans, quoi. Alors dans le 22, ce qui est intéressant, c'est que le premier épisode n'est pas un épisode de Batman, c'est un épisode de Detective Comics, c'est-à-dire la partie un petit peu plus, on va dire, ville urbaine originelle de Batman. Et là, c'est la partie qui concerne dans la série actuelle, le pingouin et le type qui a pris la place du pingouin, qui a envoyé le pingouin en prison.
Il s'appelle
Ogilvy, quoi, le pingouin empereur.
Voilà.
Voilà.
Pas mal.
Ok, mais dans Detective Comics, donc, ce qui est vraiment dans ce numéro 22, ce qui est intéressant, c'est que le premier numéro, le Detective Comics numéro 19 depuis la nouvelle numérotation, eh bien, il s'appelle 900. Et pourquoi il s'appelle 900 ? Parce qu'en plus, on remarque quand on lit qu'il y a plusieurs allusions à ce chiffre 900. Eh bien, tout simplement, si on reprend la numérotation originelle, depuis le début de Detective Comics, eh bien, là, on arrive au numéro 900. Bon, il faut aussi savoir que Batman n'a pas commencé au numéro 1 de Detective Comics, il a commencé au numéro 27. Donc, ce qui fait moins d'épisodes avec Batman de Detective Comics. Mais pour marquer le coup, ils se sont dit, bon, bah, ok, on va quand même faire un petit
le
truc.
Le tout premier, c'était celui de l'arrivée de Superman, si je me trompe.
Peut-être.
Donc, rassure-nous, il faut pas avoir vu les 899 précédents tomes pour comprendre.
Ouais, donc, alors, les Detective Comics, dans le 22, hein, il y en a quand même 4 épisodes, hein, c'est la part belle quand même à Detective Comics, quoi, sous la houlette de John Lyman. Voilà donc, avec en plus le Red Hood qui fait son apparition et qu'on va retrouver dans le 23 et certainement dans le 24. Ainsi que les histoires de Batgirl que moi je trouve vraiment très très intéressantes. Si elles sont un petit peu à part, on va dire, c'est toujours un petit peu à côté, bon, elle vient toujours filer un petit coup de main. Là, eh bien, elle a affaire avec une tueuse et son pantin assez démoniaque. Mais en même temps, elle essaye de renouer un petit peu, quoi. Elle essaye d'aller vers Bruce Wayne, vers Batman. Parce qu'il faut aussi se dire, et ça, on l'apprend dans le 23, eh bien, c'est que Batman est tellement vénère qu'il a décidé que son identité civile, Bruce Wayne, était morte. Et donc, Bruce Wayne, bah, il disparaît à un moment donné. De toute façon, je vous raconte pas ce qui se passe, mais enfin, bon, ça pète absolument de partout. On veut détruire également, quoi, ben, toutes les institutions. Bruce Wayne en fait partie à Gotham, et ben, ils ont fort à partie. Mais ce qui est très intéressant, c'est surtout le hors-série de Batman Saga, le numéro 4, parce que, bien, c'est dit en couverture, c'est le final de Batman Incorporated par Grant Morrison.
Oui, donc c'est contre Léviathan, hein, toujours.
Voilà, ouais, contre Léviathan, quoi. Mais enfin, bon, c'est pas fini, en fait. mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est que, bien, c'est la fin de la participation, de la collaboration, en fait, de Grant Morrison à Batman. Il tire sa référence à la fin de Batman Incorporated, il laisse la place à d'autres. Et on a donc les différents épisodes. Alors, c'est pas vraiment une fin, on va dire. Si, bon, dans le premier, effectivement, bon, on sent que, bon, ben, il y a une quête de la part de Batman, c'est-à-dire venger la mort de Damian. Ça, c'est sûr. Il veut trouver le coupable, il veut le dégommer, il n'y a pas de problème.
C'est l'hérétique.
C'est l'hérétique, mais derrière lui, c'est Talia. Donc, il n'y a pas de problème, de toute façon. Et Talia, on y vient dans le numéro 23, juste après la fin de Grant Morrison, avec ce fameux affrontement final.
Parce que d'ailleurs, il y avait un cliffhanger à la fin du hors-série 3 où il y avait, je crois, c'était Jason Todd qui finissait enchaîné à une chaise dans le repère secret de Talia.
Tout à fait. Et là, je vais pas trop vous dévoiler parce que bon, on le voit justement, le Jason Todd, bah, c'est le Red Hood, justement, quoi. Et le Red Hood, le masque est récupéré par Batman. Jason Todd, lui, bah, il s'engueule un petit peu avec lui, il se barre. Mais il se barre pas forcément dans la bonne direction, à mon avis. Bon, déjà, c'était pas la première fois, quoi. Donc, bon, on s'attend au pire. Bon, mais ce qui est très intéressant, que je termine avec Grant Morrison, c'est que, bah, il y a carrément, à la fin de Batman Inc., quoi, c'est-à-dire au milieu, quoi, parce que bon, ça continue après sous la houlette d'autres scénaristes, eh bien, un petit mot d'adieu de monsieur Grant Morrison qui dit, ah, je suis vachement content, j'ai participé à je sais pas combien d'années depuis Batman est rippé, ça fait quand même presque 7 ans, hein, qu'il avait juste commencé, il explique, il a juste commencé, ouais, je veux faire l'arc Batman est rippé dont je vous avais parlé, quoi, hein, la mort de Batman, tout ça, enfin le truc, tous ses anciens adversaires qui sont autour du cercueil et tout.
Quand il revient du passé, c'est ça?
Voilà, après il va revenir du passé, quoi. Lui il était juste parti pour Stark et puis après, bon, ciao, et puis bon, il est resté, et là, bon, ok, il termine avec Batman Inc. Alors, il y a pas des épisodes intéressants. intéressant parce qu'en fait c'est justement quoi, bah, les déclinaisons argentines on va dire, hein, puisqu'il y a un épisode sur le gaucho. Il y a un autre épisode qui est vachement sympa parce qu'il est un petit peu illustré à la manière manga on va dire, hein, c'est le Batman japonais. Hein, qui est assez sympa quoi, j'aime bien le style de dessin et tout quoi, ça change un peu quoi, ouais. C'est assez rigolo, ouais. Quoi, t'as des petits trucs bien sympas quoi, enfin bon, ça vaut vraiment son pesant de caca. Et en plus, bon,
son
bah, après,
caca.
Oh, de cacahuète, ouais. De cacahuète. Et en plus, bien sûr, après, ben, vous avez la suite, le lien hein, qui fait que Batman continue sa quête pour eh bien, essayer d'ailleurs d'aller toujours plus loin. Alors, ce qui est vachement rigolo, quoi, enfin, c'est pas rigolo, si c'est vachement rigolo, c'est que les scénaristes qui prennent la suite, en fait, ils sont vraiment dans la même lignée, en fait, que Morrison pour l'instant, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, y a une suite tout à fait logique. Bon, bah, je vais pas dire laquelle, parce que, mais elle apparaît assez évidente quand même à ce qui va se passer lors d'un duel final entre Batman et Talia, donc son ex, et. Donc la mère de Damian, bien sûr. Mais on apprend également que ben il n'y avait pas qu'avec Talia que Bruce Wayne avait fricoté du temps de son entraînement à la Ligue des Assassins.
Et ça, que...
ça ne fait que partie de la page People, on peut dire quoi.
Et est-ce que Talia dans le comics meurt mieux que la Talia du cinéma?
Ouais, sans problème.
Ah voilà, et tu vois, et il attend aucune occasion pour spoiler comme un porc en fait.
Non mais sans problème quoi. Bon. Encore que c'est-à-dire que je vais pas dire que je vais douter autant que pour le truc du Joker, tu vois, parce que bon, le truc du Joker c'est quand même énorme. Mais bon,
on n'a pas retrouvé le corps, je répète, on n'a pas retrouvé le corps.
Voilà quoi, bon, moi c'est un grand classique quoi. Bon, en tout cas, c'est vraiment c'est très très intéressant les Batman en ce moment quoi, ils sont vraiment au-dessus du lot, hein. Il n'y a pas de problème que ce soit au niveau du graphisme, tous les dessinateurs, c'est très très varié, c'est aussi ça qui est très intéressant, et les graphistes savent s'adapter à la couleur du récit, c'est ça aussi qui est en train de très très intéressant. Et là on peut dire que bon bah pour l'instant au niveau comics quoi, ils sont vraiment au-dessus quoi, au-dessus du lot sans problème. Bref,
il a réussi à dire en moins de 2 minutes 5 fois très intéressant. Je pense qu'il pédale dans la semoule du sport. Ouais,
non mais c'est pour question, la conclusion quoi.
J'ai une question, je suis tombé sur la critique de Un deuil dans la famille, donc c'est la rétrospective, donc la compilation en forme d'album cartonné de l'arc avec le Joker justement. Cet album s'est fait descendre sur notre site partenaire Actua BD par le chroniqueur Antoine Boudet. Et toi, est-ce que tu nous conseilles l'achat de ce livre, puisqu'il faut il faut rappeler que c'est les 75 ans de Batman, et si vous aimez Batman, il y a Urban Comics qui vous tartine avec de la réédition de Batman.
Oui. Un deuil dans la famille, ouais, c'est-à-dire l'arc avec le Joker, en
oui,
fait.
Oui, exactement.
Hein. Ben, c'est-à-dire que, bon, bah, par cette fin qui est un petit peu rigolote, enfin bon.
En tout cas, on a compris que toi, ça t'avait fait rire, oui.
Ok, on peut dire que. Bah, je vous en avais parlé d'ailleurs, ici, quoi, de ce Joker. Bon, bah, ce qu'il y a, c'est que, bon, bah, il y a une espèce de proportion à l'ultra-violence et au gore, hein, carrément, quoi, qui. Peut-être desservait un petit peu l'histoire. Sinon, bon, bah, ok, quoi, c'était une histoire traditionnelle. Fait partie de la légende du Joker, en fait, hein, y a pas de problème. Moi, si j'étais fan du Joker, je l'achèterais sans problème. Je serais pas trop déçu, à mon avis. Hein. Je pense, quoi.
Est-ce que tu vas te précipiter sur Batman Anthology? Je sais pas si tu as vu qu'il y avait un recueil qui était sorti, ce qui compilait, en fait, les meilleures histoires de Batman, ouais. Du premier épisode de Detective Comics dans lequel il apparaît jusqu'à du graphisme très récent d'aujourd'hui. Est-ce que toi, ça te dit quelque chose?
Non, je n'ai pas trop vu parce que, par contre, bon, mais il y a bien le Joker Anthology qui
oui,
je
l'ai vu à la FNAC hier. Ouais.
Qui est sorti. Il faut aussi savoir qu'au niveau Before Watchmen, il y a le Ozymandias qui est sorti donc en couleur ouverture cartonnée, et il y a également le Spectre Soyeux. Ou alors ils sont à sortir au début du mois d'avril.
Je suis tombé sur le Spectre Soyeux. Je peux te dire qu'il est paru.
Ok, bah ouais. Donc voilà en ce qui concerne les comics.
C'est si bon.
Je pense qu'on a été compris là.
Louis Armstrong sur Radio FMR. C'est si bon. We'll be right back.
say Sumo. Love will say eating friends. When they thrill to romance. Because it's so good. Say Sumo. Now I'll say it to you. Like the French people do. Mama, it's so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought. And it's still, it's so good. Nothing else can replace. Just your slightest embrace. And if you only would be my own, till the rest of my days, Mama, I will be your friend. Oh, say Sibo.
Oui, oui. Ah, ma foi. Qu'est-ce que l'on a dans les news, point de vue cinéma? Une application plutôt intéressante qui s'appelle RunPee. Alors RunPee, c'est très simple, c'est quand vous allez aux toilettes et que vous avez une petite...
Une petite envie,
voilà, une petite vessie, tout ce que vous voulez. Et ben, vous dites, mince, je vais peut-être louper quelque chose d'intéressant pendant ce film. Ah, c'est... Heureusement, il y a donc cette application qui vous donne. Alors, c'est très simple, c'est vous la lancez et vous dites quel film vous allez voir et vous démarrez au moment du générique. Et au bout d'un moment, il va vous dire, dans 5 minutes, tu pourras aller aux toilettes. Ah bon, t'es sûr? Tu peux aller aux toilettes. Donc, tout le monde va aux toilettes. En même temps, ça vide la salle. Et de toute façon, vous loupez rien parce que il vous dit, bon, alors, résumé en deux lignes. Il se passe ça.
Ah, excellent.
Voilà. Donc, moins d'un dollar sur iOS, Android et Windows Phone. Donc, c'est évidemment c'est une application collaborative. Et donc, il y a des mecs qui vont au cinéma et qui repèrent dans les blockbusters. Ok, là, il y a vraiment un truc nul. Évidemment, c'est prévu pour les sorties américaines, je pense. Donc, si vous êtes dans un pays où on a tendance à couper un petit peu, ou si l'exploitant du cinéma décide à accélérer un petit peu le film...
Ah, merde, ouais, c'est plus raccord.
Ça sera pas raccord. Donc, je demande à voir quand même RunPee qui permet d'aller faire pipi sans louper un passage important. En tout cas, les captures qu'on a pu voir d'écran étaient assez rigolotes.
Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je vais pas au cinéma depuis que j'ai zéro ans, du coup, mais moi, à 35 ans, je suis allé une fois faire la pause pipi pendant un film. Ça m'est pas souvent arrivé, je sais
moi,
pas pour vous.
Moi, j'y vais avant, c'est plus simple.
Bah ouais, moi aussi, mais moi, c'était devant Lady Vengeance de Park Chan-wook. Bon, j'étais pas fier de moi, mais... Et toi, Duce?
Bon, ça a dû m'arriver.
Devant Lady Vengeance. Un grand classique, tu... Ah oui, d'accord.
Non, c'est un film récent à l'époque qui était sorti après...
Ah oui, c'est la suite qui est à chier, oui, après, pour aller aux toilettes.
Il n'y a pas de suite, en fait. Non, mais Xavier, il est à la masse, là.
Non, mais tu sais, parce que dans le temps au cinéma, il y avait des personnes qui à l'entrée, qui demandaient ton ticket, puis juste à l'entrée de la salle, tu avais jeunes femmes, généralement, qui te plaçaient, qu'on appelait les ouvreuses. De cinéma et qui à l'entracte distribuait les bonbons, les glaces et tout ça. Je sais pas si t'as connu cette période.
Non, mais j'ai connu les gens.
C'est à ces personnes-là que tu demandais si tu pouvais aller faire pipi. Elles t'accompagnaient jusqu'à la porte des toilettes. D'accord. Si tu avais le droit dans le cinéma d'aller faire pipi pendant la séance.
D'accord.
Complètement à part, on a appris donc dans le film français que Luc Besson se prépare à attaquer quand même une adaptation d'une des pièces majeures de Shakespeare comme étant la plus intéressante. Il s'agit du personnage de Richard III, donc une pièce assez terrible. Hein,
ouais,
quand même.
On s'en fout, Kenneth Branagh l'a déjà fait quoi.
Il y a Al Pacino aussi.
Ça a été fait un certain nombre de fois.
Mais c'est marrant parce que Luc Besson, à un moment donné, il avait dit qu'il ne voulait faire que 10 films. Bon, là, il les a dépassés allègrement.
Là, allègrement, ouais.
Alors, bon, ça, je cite
Luc Besson.
Ouais.
Ah, peut-être qu'il a ajouté réussi après.
Non, alors, s'il vous plaît.
Alors là, bon, alors on cite la phrase de Besson. Donc, il dit « Je vais reprendre scrupuleusement l'intrigue d'origine de la pièce de Shakespeare qui se déroule au 15e siècle en Angleterre. » Bon, mais ça sera son retour dans le film d'époque après Jeanne d'Arc. Mais cette fois-ci, la guerre qui fait rage entre Richard III et le futur Henri VII aura lieu entre Miami et Hong Kong, en passant par Milan et Moscou. Richard sera un maître de parcours et un ancien des forces spéciales du duché de Gloucester. Il devra affronter les ninjas britanniques envoyés par ses rivaux. Je suis encore en train de travailler sur ce dernier élément pour éviter tout anachronisme.
Bah oui, c'est forcément le cinquième élément est quand même le plus compliqué. Voilà. Bien évidemment, la tirade que tout le monde attend, qui avait été faite dans la version d'ailleurs années 30, hein, version années 30 de Richard III, où Richard III se retrouve en plein milieu de la bataille. Son cheval se fait abattre, là c'était remplacé par une jeep et c'était... on croyait que ça allait être ridicule et en fait non, ça a envoyé. Et justement, ben, la baston finale, Luc Besson espère travailler ça proprement et il dit que Ricky III lâchera une Audi, mon royaume, pour une Audi TT coupée. On verra ce que ça donnera. En tout cas, le casting est plutôt intéressant parce Richard III quand même, c'est un personnage assez torturé, plutôt négatif parce qu'il met en prison son frère et tout ça.
Ah, puis en tout cas, il a pris un acteur qui peut véhiculer ce genre de personnage ambigu. Ouais. Hein. Donc, en tout cas, on pourra admirer le retour de Jet Li au grand écran.
Bon, du coup, donc Richard III ne sera pas bossu comme dans la pièce originelle.
Quoique,
il a déjà fait en plus Jet Li. Et Henry VII sera joué par Dwayne Johnson.
Donc, The Rock qu'on pourra admirer entre temps dans le rôle d'Hercule.
Cool. Voilà.
Plutôt
par Brett Ratner.
C'est
cool.
Dans le film français via le Gorafi. Dans le Canard Enchaîné, on en apprend un peu plus sur les conditions houleuses de la fermeture de la filiale de production cinéma de l'opérateur Orange, puisque Orange Studio ainsi a été fermé un peu brusquement et sa directrice foutue à la porte début février. Elle traîne actuellement justement son employeur devant les tribunaux pour vice de forme et tout ça. On en apprend un peu plus donc de ce côté-là, puisque ainsi étaient prévus deux films qui étaient en discussion avancée avec le producteur Pathé pour la production. Un biopic sur Antoine de Saint-Exupéry et surtout, et je vous promets, c'est pas une blague, si c'est dans le Canard Enchaîné, c'est quand même relativement vérifié, un film avec la licence Playmobil.
Cool.
Ils ont dû se dire, ah ok, Lego fait un film, ah bah on va faire un film avec Playmobil.
Ah c'est con, tu l'as pas le morceau là.
Non, je l'ai pas sous la main.
Ça existe déjà, les séries animées Playmobil, de toute façon.
Ah ouais. Tout est super génial. En tout cas, donc, la directrice Frédérique Dumas a été virée sous prétexte de la faible rentabilité de la filiale, estimée à environ 42%. Et elle s'est défendue dans le Canard Enchaîné en disant que, ben, primo, c'est la norme dans le secteur. Pardon. C'est la norme dans le secteur. Attendez, oh, on vous rappelle une chose quand même, c'est que aux États-Unis, on produit des films d'un certain budget pour qu'ils soient rentables. C'est un peu idiot quand même comme mode de pensée. Et d'un autre côté, elle rappelle qu'elle a produit quand même des gros blockbusters comme Welcome et The Artist qui ont quand même franchement bien marché au cinéma. Bah ouais, ouais, elle a raison de ce côté-là. La séance. Les explosions se sont présentées en 3D reconstituées, en CGI, en Dolby Surround, Razzwing de moquette, Ultimatum.
Eh oui, parce que, tiens, pour une fois, il n'y a pas trop d'explosions. Alors, quand c'est un film de guerre, on va parler de chef-d'œuvre artistique en péril.
Ah
avec
bon, ils font pas tout péter?
Pas tout. Eh bien, heureusement, sinon il n'y aurait pas d'histoire.
J'ai pas retrouvé le générique de chef-d'œuvre en péril, justement. Je le regrette.
Alors, Monuments Men, est-ce que quelqu'un l'a vu?
Non.
Non.
Bon, eh bien, vous avez rien loupé. Ah.
J'ai vu le PK version longue qui est passé sur National Geographic, hein, c'est tout.
Un film de et avec George Clooney, aussi Matt Damon, Bill Murray, Kate Blanchett, John Goodman, Jean Dujardin et Hugh Bonneville. Inspiré d'une histoire vraie, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hitler, sentant sa fin approcher, ordonne qu'à sa mort, les œuvres d'art dérobées au musée soient détruites. Parce qu'il faut dire que le bougre, il avait chapardé et grave sa mère plein d'œuvres d'art dans les musées pour faire sa collection personnelle, puisqu'il voulait
construire... dans les collections privées.
Voilà, et parce qu'il voulait construire son propre musée dans la montagne.
Ouais, enfin, c'était plutôt Göring hein, qui était le spécialiste du pillage des œuvres d'art. Hein.
Oui, mais c'était pour Hitler. Mais lui,
le fidécommis de Hitler, quoi, pour justement piller toutes les œuvres d'art.
Et il se servait aussi au
Europe,
passage. Hein,
et
ouais.
Göring se servait, Hitler, lui, voulait vraiment faire le plus grand musée du monde d'art arien. Et on voit des, des maquettes et
ouais,
tout
mais autant que je me souvienne, Göring avait quand même plus de goût au niveau de l'art qu'Adolphe.
Mais heureusement, heureusement, des historiens d'art, artistes, des architectes, des conservateurs de musées sont envoyés dans toute l'Europe pour sauvegarder le patrimoine artistique mondial et aussi récupérer les œuvres volées et stockées dans un lieu tenu secret par les nazis. Ces hommes, les Monuments Men. Alors, outre le fait de... Parce que je parle comme du sport maintenant. Outre, j'aime bien employer le mot outre. Outre, donc du coup, le fait d'éclairer sous un fait méconnu de la guerre, le film, il va servir à vous combler une partie de la soirée. De façon pas forcément désagréable, mais d'une manière tout à fait sympathique, puisque ça vous permettra d'oublier exactement les deux heures que vous aurez passées devant le film pour aborder une fin de soirée beaucoup plus sympa en dégustant un café devant Confessions Intimes ou... en tout cas, ça vous encombrera pas le cerveau, ça c'est sûr. Aïe. Constamment, le film hésite entre plusieurs tons. On sait pas trop si c'est une comédie, si c'est un film de guerre, un thriller, parce qu'il s'agit d'une course contre la montre également. À force de vouloir tâter sur tous les terrains, le film se perd un petit peu beaucoup. L'esprit, c'est, on va dire, un croisement entre Les Douze Salopards, le vieux film de guerre, tu sais, où on te dit, voilà, c'est des cow-boys un peu classe, un peu cool, qui fument des Marlboro, la guerre c'est cool. Bon, il y a quelques morts à côté, mais ils meurent de façon très très propre. Le débarquement, c'est bon, le gars qui fait trois sauts de cabri entre deux explosions. On voit que la guerre, c'est ça tue un peu les autres, quoi. C'est pas les gros héros américains. Et puis, bon, ça, c'était la période avant Le Soldat Ryan. Et à mi-chemin, alors, c'est un film qui joue là-dessus. Et puis aussi un peu un esprit cartoon où on voit un peu des architectes ou des historiens d'art un peu vieux qui sont débarqués sur les lieux de guerre. Donc on voit des espèces de vieux papis, enfin des papis, plus ou moins entre guillemets.
Des rats de bibliothèque.
Exactement, mais sans, on va dire, le côté donneur de leçons des Space Cowboys qui était vraiment hilarant. Là, on n'a pas trop... Justement, un Space Cowboy, ça marchait parce qu'on avait toute une phase d'entraînement où ils essayaient de tricher pour correspondre aux critères physiques exigés pour aller dans l'espace. Et puis là, bon, forcément, on a évidemment une phase d'entraînement, mais elle est vraiment expédiée, mais bâclée comme c'est pas permis. Du coup, on a pas du tout le côté contraste comico-guerrier.
Ouais, mais peut-être que Clooney, il a voulu justement quoi, écourter la scène, parce que c'est vraiment la scène qui est une des scènes attendues dans les films de guerre et tout, l'entraînement, allez, il faut passer les murs, bon, grimper à la corde, sauter de 5 mètres, enfin, le genre de truc qu'on voit dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de films de guerre.
Ben, en fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, c'est con, on n'a pas cette séquence-là, mais c'est peut-être... Bon, c'est un parti pris de Clooney, d'accord. Dans la guerre, à un moment donné, on voit un jeu qui est surtout celui de Jean Dujardin, qui est vraiment complètement décalé, parce que Dujardin, première scène, il fait le sourire vraiment à la Brise de Nice. Mais je me suis dit, bon, cette direction d'acteur, c'est bon, c'est ce qu'a voulu Clooney. Bon, allez, là, passons.
Reprends un café, Emile.
Les scènes de guerre. Bon, on va reconnaître une certaine efficacité parce que, bon, on peut le dire ici, les Monuments Men, ils ne rentreront pas de la guerre en entier.
Ah, quand même.
Il y a quand même des morts.
Oh là là.
Il y en a plusieurs. Il y en a une qui est plus poignante que l'autre. L'autre, on va dire, on sait pas trop si on doit rire ou si on doit pleurer. Avec toujours la fameuse scène « Tu donneras ça à ma femme !» Non, 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 non. Alors, bon, ce cliché. Bon, Clooney n'a pas fait le cliché de l'entraînement de la guerre. Par contre, il a utilisé ce cliché-là. Je me suis dit, ok, second degré, bon, c'est peut-être ce qu'a voulu faire Clooney. Passons. Dans l'histoire, les Monuments Men sont un peu divisés dans l'Europe. Donc, on voit Matt Damon qui est totalement à part, qui va essayer de négocier auprès de Cate Blanchett le fait qu'elle lui donne une liste d'œuvres d'art parce qu'elle, comme c'est une Française, elle soupçonne les Américains en fait de vouloir faire comme Hitler, c'est-à-dire voler les œuvres d'art. Donc, Matt Damon va passer tout le film à essayer de convaincre Blanchett que les Américains, non, ils veulent les restituer.
C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé, justement. Ça a été un des très gros problèmes des Américains, c'était d'arriver à convaincre cette personne qui était au jeu de pommes.
Oui, voilà.
Voilà, et qui était employée par les Allemands pour répertorier. Et elle avait fait un répertoire officieux, justement, de toutes les pièces qui avaient été confisquées.
Bah, c'est ce qu'on voit dans le film, exactement, puisque son carnet, justement, va permettre de localiser certaines œuvres d'art. Alors, moi, ce que j'ai trouvé dommage, outre tous ces petits détails, c'est que, en fait, on n'a pas trop de background sur les personnages. À part un ou deux où on voit qu'ils ont un peu déconné en Angleterre, qu'ils s'étaient un peu portés sur la boisson, donc on voit que dans cette mission-là, ils sont en quête de rachat. Il n'y a pas vraiment de background, il n'y a pas vraiment de dissension entre les rangs, ils s'aiment tous, c'est super cool. Bon, on voit qu'il y en a certains qui sont un peu les antagonistes, donc forcément ils vont être en binôme. Mais d'ailleurs, c'est le côté du film qui marche le mieux, hein, entre Bill Murray et l'acteur dont j'ai oublié le nom, Galagan, je crois qu'il s'appelle, ou Balaban, ou voilà.
Bob Balaban.
Voilà, c'est ça, Bob Balaban, voilà. À part cet antagonisme-là, bah, Clooney, c'est l'homme lisse par excellence. Je pense qu'il était plus occupé à être derrière la caméra que devant. Matt Damon, il fait une espèce de flirt avec Kate Blanchett, mais pas trop. Il y a pas de background. Les personnages sont lisses, ils sont vierges, ils ont pas de passé. Dujardin, il a rien. Voilà, c'est un français, il joue le français, il glisse 2-3 mots en français dans le film, et voilà, c'est tout. Et voilà, donc tu tripes pas pour ces personnages-là. Il y a des vieux, il y a des enrobés, il y a des plus fins. Bon, voilà. Bon, à un moment donné, t'as des Roland de Ocean's Eleven. Tu as Clooney qui va dire à Matt Damon, hey, on rempile un peu, j'ai une mission super dangereuse et tout. Ouais, je suis avec toi et tout, ça. C'est vraiment le Ocean's Eleven. Mais on n'a pas le côté. Ouais,
funky.
On n'a pas le côté là où avait super réussi Soderbergh, c'est que il n'a pas besoin d'expliquer le background. On devine qu'il y a un long contentieux entre certains personnages, mais il ne le dit pas dans le film. Et justement, c'est parti pour mystère. Là, c'est pas que c'est pas dit, c'est qu'il n'y en a pas. Donc voilà, donc le film, on va pas dire que c'est un film raté, parce que ça a quand même un côté classe. Clooney s'est filmé, s'est raconté une histoire, mais on voit vraiment que les acteurs sont en vacances. C'est un film en vacances, c'est-à-dire, voilà, il suffit d'être là, on a John Wood.
J'ai un budget pour tous nous payer, on peut se faire des vacances super classe, ça cool. Vous dirait un super film.
Bah c'est ça. C'est exactement ça. T'as des scènes de guerre, mais. Bon, ça, par contre, ça c'était pas mal. T'as des scènes de guerre un peu décalées, c'est-à-dire que t'as du gunfight, mais c'est fait avec à travers le point de vue de ces Monuments Men. Donc là, il y a un décalage assez drôle. Il y a une scène poignante dans le film qui rachète un peu le reste. C'est Bill Murray qui va faire son. Il va prendre une douche dans le quartier des officiers militaires en pleine nuit. Et il y a son pote, en fait, qui retrouve une bande audio qui a été enregistrée par sa famille. Et au lieu de lui montrer en privé, en fait, il le diffuse sur le haut-parleur. Et là, en fait, ça parle à tout le camp. Et on voit Bill Murray dans une séquence qui est complètement muette. Et il a juste interrompt la douche, le fil d'eau. Et en fait, il écoute le témoignage poignant que lui dit sa femme. C'est, voilà, il n'y a pas plus, ça dure 2 minutes. C'est franchement la scène qui sauve le film. Sinon, il y a un climax, une espèce de. Voilà, un climax à la fin. Parce qu'il faut savoir que c'est une course contre la montre. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument mettre la main sur les œuvres avant que Hitler décide de tout cramer. Et surtout, il y a le front russe qui avance. Et il faut surtout pas donner les œuvres aux Russes. Parce que eux, les Russes, ils veulent les garder pour eux.
Eh oui.
Donc il y a un petit climax à la fin où voilà, il faut surtout pas que les Russes et les Américains se rencontrent. Ça se finit. Allez, bon, on vous fait pas le climax super tendu. On est quand même des vieux pépères. Allez, c'est réglé. Allez, vous pouvez aller boire votre café, aller votre petit resto. Vous aurez pas l'esprit encombré par notre film, ça c'est sûr. Donc Monuments Men, très très. Voilà, vous pouvez le découvrir à la télé pendant un après-midi.
Voilà.
Vous prenez le thé, les petits gâteaux avec vos potes, ça suffit. Monuments Men 2 et avec George Clooney toujours à l'affiche.
Hey girls, Matt Damon is inside. Oh fuck on. Orchestra, The Man, Part 2.
Thank you.
Eh ben, si on entamait justement les news télévision, il y en a quand même quelques-unes qui sont pas trop mal.
Ah bon ?
Oui, oui, bah oui, sur mon conducteur. T'as qu'à être ? Non mais, faut expliquer à du sport, on fait tout sur le numérique et lui, il veut pas. Résultat, on a toutes les news à sa place, donc c'est un petit peu agaçant. Amy Poehler, qui est la star de Parks and Recreation, qui a commencé dans le Saturday Night Live, produit une série créée, écrite et incarnée par son petit frère. Oh, comme c'est mignon. Greg Poehler, qui est un ancien avocat new-yorkais, qui n'avait aucune expérience dans l'audiovisuel en quoi que ce soit, et qui est domicilié à Stockholm, où il vit avec son épouse suédoise. Ça a donné une série qui s'appelle Welcome to Sweden, produite, c'est une série qui est bilingue, c'est-à-dire tout se joue, toute l'intrigue se fait par le fait que c'est un couple d'Américains, enfin c'est un Américain, pardon, qui vit en Suède et qui ne parle pas la langue locale. Mais qu'une partie des Suédois parlent anglais, mais pas tous. Donc c'est assez intéressant, je vais dire, en termes de décalage. C'est une série donc, qui a été diffusée sur TV4, donc un réseau suédois, qui comporte des caméos d'ailleurs de Will Ferrell et Gene Simmons, de Kiss, s'il vous plaît. Et cette série a été rachetée par NBC pour être diffusée telle que. Et ceci, malgré un cast majoritairement suédois, hein, c'est que les acteurs locaux, et 30% environ de dialogue en suédois, donc que NBC va sous-titrer. Ça a déjà eu lieu quand même, une série diffusée par le grand network américain avec une partie sous-titrée, c'était Heroes. Dans un pays où quand même les sous-titres, on n'aime absolument pas. Certains ont dit que c'est justement ce qui avait plombé l'audience de Heroes, à mon avis il n'y avait pas que ça. Mais peut-être que c'est effectivement, hein, ça y a joué.
Ouais, il n'y en avait pas tant que ça, quoi, en plus.
Il n'y en avait pas tant que ça.
Des dialogues en japonais ?
Bah ouais, c'est tout.
Bah, il n'y avait pas qu'en japonais, il y avait en espagnol, il y avait en hindi au bout d'un moment.
Oui, mais bon, c'était vraiment
participer au mystère.
Bah oui.
Oui, ça aide, c'est quelque chose que nous, on est habitués, surtout nous qui avons l'habitude de regarder en VOST, mais qu'aux États-Unis, ils ont plutôt l'habitude de tout avoir en doublé. Il n'y a quasiment rien qui existe. Alors ça me fait rire parce que je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des épisodes de CSI avec des parties de dialogue en espagnol, d'ailleurs c'est le cas sur les trois franchises, et ben en Angleterre elles ne sont pas sous-titrées, elles sont redoublées, mais les acteurs le font en espagnol et si. Ensuite ils redoublent. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. À noter donc que la bande-annonce telle qu'elle a été diffusée en Suède est intégralement en anglais, pratiquement, à quelques mots suédois après, mais n'a pas été sous-titré. Et c'est vrai que c'est très 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 drôle, en tout cas c'est franchement à hurler de rire, puisque les Suédois, ils ne mettent pas de volets ou de rideaux aux fenêtres, donc en fait tout le monde peut regarder dans la maison de chacun.
Bah, c'est donc, pas, quand c'est tu pas les seuls. Hein.
Quand
en
tu
gros,
sors,
ils font pas leurs affaires pendant la journée. Hein.
C'est pas les seuls.
Ben, surtout, c'est quand tu arrives à poil dans ta cuisine. Quand tu sors du lit.
Bah, il faut pas aller à poil dans
voilà,
la cuisine.
Voilà, hein. Exactement.
Non, mais ils mettent des rideaux quand même, tu sais.
Oui, bah là justement, ils oublient. Donc c'est, la bande-annonce est en tout cas très drôle. Mais c'est surtout la preuve qu'en Suède, il y a un certain confort local quand même sur les séries qui sont diffusées en anglais. C'est la première fois qu'ils font une série en langue anglaise. On va voir ce que ça donnera. En tout cas, l'article donnait sérieusement envie d'essayer de choper le premier épisode qui est disponible sur le net. Brian Hanson, est-ce que vous voyez qui c'est ?
Oui.
C'est le fils,
c'est
de,
le fils de
Jim. Jim Hanson. Voilà, le créateur des fameuses créatures et tout ça, et donc le patron.
Créateur des créatures, ouais. Du Jim Hanson créature.
Et le fondateur de Jim Hanson Company. Lors d'une des conférences TED, il faut vous expliquer un peu le principe des conférences TED, c'est des conférences qui sont là en fait pour vous donner un autre angle, un autre point de vue. C'est une conférence de 20 minutes assez rythmée et où on peut parler de musique, on peut parler d'art, on peut parler de technologie. Et là, dans ce cas-là, ben, il explique ce qu'est qu'une marionnette, comment ça marche, etc. Il explique les créatures. Donc les créatures, attention, ça peut être quelqu'un à l'intérieur, hein, avec un masque en animatronique et tout le reste. Justement l'animatique, les robots commandés, marionnettes 3D, Jim Hanson Creature, donc justement c'est eux qui ont fait le Muppet Show, qui font toujours Sesame Street, qui ont fait Fraggle Rock ou des films comme Dark Crystal, mais ils interviennent aussi comme prestataires auprès de Star Wars, auprès de films comme les Flintstones ou
Star Wars, c'était Yoda je crois, hein.
Entre autres, il n'y a pas que ça, il y a aussi toute la partie avec Jabba the Hutt.
Il y avait aussi une série qui était une série australienne ou néo-zélandaise de science-fiction, Farscape, où tous les personnages et tout le truc était fait par la compagnie de Jim Henson, et c'était vraiment très très réussi. Hein.
C'est ce qu'ils montrent justement dans la conférence TED, ils montrent comment ça marche, et en fait ils avaient récupéré des manches d'hélicoptères de l'armée pour avoir pour avoir autant de contrôle qu'ils peuvent, donc avec les yeux et tout, ils peuvent faire les regards indépendants, et c'est marrant parce qu'elle est en train de faire sa conférence et en même temps il manipule la marionnette. La marionnette parle à sa place au bout d'un moment. T'es là, tu te prends une claque. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'ils font aussi des publicités, des clips et des scènes de concerts. Et méga concerts, en fait, sont gérés par l'équipe de Henson. Ils ont aussi lancé une télé-réalité sur la chaîne Sci-Fi qui s'appelle Jim Henson Creature Chop Challenge, où en fait ils font appel à des professionnels, à des semi-pros sur le marionnette, etc. Ils leur disent, vous avez 48 heures et les moyens de nos studios pour faire une créature. Alors voilà, le thème c'est horreur, le thème c'est spatial, le thème c'est pour les enfants, etc. Et allez-y, faites-le. Le premier épisode a été diffusé cette semaine, on ne peut pas vous donner de retour puisqu'on ne l'a pas légalement en France, mais en tout cas, les bandes annonces qu'ils ont montrées, ça donnait franchement envie. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, Brian Henson, la conférence TED, c'est juste des extraits en fait, avec à la fin une bande annonce. Ça vaut le coup, c'est plutôt sympa et ça envoie grave du velours.
On va rappeler la référence si nos amis auditeurs veulent retomber sur cette vidéo.
Oui, bah vous allez sur le site supplementweekend.fr, on vous mettra le lien dans le billet de l'émission et tout ça.
Ou sur notre compte Twitter.
Ou sur le compte, oui, bah là je ne l'ai pas fait, donc voilà.
Pour une fois, j'étais concentré. Dans les minutes qui viennent, tu seras mis en ligne.
C'est Wired, c'est le magazine Wired, hein, sinon tu tapez Wired Henson, H-E-N-S-O-N, et vous tombez dessus donc sur cette conférence TED, qui est plutôt bien. Duce se réveille. C'est à toi.
Je crois qu'il attend que tu mettes le morceau.
Bah oui, il semblait. Et le générique, enfin bon, le...
Ouais, il faut un générique quand même.
Non, là, je pourrais pas.
Ah bon,
mais le morceau, alors.
Voilà.
Tu vois, t'as vu, t'es puni de générique aujourd'hui.
Ah non, bah, mais là, c'est un peu compliqué. Là, c'est un peu compliqué. Quelle plage déjà?
Le 10. Voilà.
Ok. Allez.
Allez.
Quand le lecteur se réveillera,
un peu de joie et de gaieté.
C'est une wage.
Entièrement fabriqué au synthétiseur, c'est magnifique.
Ah, je suis tombé sur FIP sur Miss Rilou, mais la version originale était en français, c'est pas mal aussi. On va faire une spéciale du supplément, à mon avis, avec ce genre de truc.
De Miserlou ?
Oh,
parce qu'il y en a des versions.
Ah ouais, je sais.
Il y en a. Ok, des films à la télé. Alors donc, comme je savais que t'allais faire mon New York semaine, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu plus de films de guerre cette semaine et tout. Hein. Bah, histoire de, hein. Il n'y a pas de problème.
Il y en avait au moins.
Ouais. Ce soir, donc, sur RTL9, à 20h40, c'est pas l'heure qu'il est maintenant, là. Hein. Là, il est 13h.
On a entendu le top, il est 13h.
Voilà, 13h. Donc, sur RTL9, ce soir, un film cool, comme ça, pour s'amuser. Dodgeball, même pas mal, de Marshall Tucker. Ouais, le retour de Ben Stiller et de Vince Vaughn.
Dans
ta gueule. Ouais. Mais c'est assez rigolo. Autre style d'humour également ce soir, sur Ciné Plus Club, à 20h45, c'est Clarks, le film de Kevin Smith, son premier, me semble-t-il. Hein. Ouais, Clarks, il avait pas fait... Si, Clark, il me semble que c'est le premier.
Ouais.
J'ai pas vérifié, quoi. Donc, avec Brian O'Halloran, Jeff Anderson, quoi. Mais le film très rigolo, vraiment sympa et tout, quoi. À l'époque, c'était une grosse claque. Enfin, en plus, le film est en noir et blanc. Donc, et ça raconte une journée de deux mecs qui bossent dans un magasin de vidéos, de trucs comme ça.
Vidéo Club, ouais, Clerks.
Voilà, quoi. Et bon, bah, c'est absolument hilarant.
Il a fait
sympa,
un
quoi.
Clerks 2 après. Avec
mais qui est moins bien.
Ouais.
Mais qui est moins bien, quoi, quand même.
Et d'ailleurs, Clerks. est l'un des films marquants de l'histoire du cinéma parce que le budget alloué à la bande son était supérieur au reste.
Alors sur Paramount Channel également ce soir à 20h40, Du sang dans le désert ou The Teen Star, le titre original, le film d'Anthony Mann en 1957 avec Henry Fonda et Anthony Perkins. Ah ouais. Henry Fonda, chasseur de primes, s'installe dans une petite ville dont le shérif est le jeune et inexpérimenté Anthony Perkins. Mais que va-t-il se passer? C'est ce soir sur Paramount Channel à 20h40. Demain sur M6, alors sur les trois chaînes principales, Laisse épicer, c'est deuxième tour des campagnes municipales, donc le film du dimanche soir, vous faites une croix dessus, du tu coup, vois, je suis resté
mais
poli.
C'était hein. bien dimanche dernier.
Ah ouais, c'était vachement bien.
Il y avait Papy fait de la résistance, il parlait de Marseille.
Ouais, ouais, ouais. ouais. Par contre, M6 se dit, on va y aller, nous on en a rien à foutre et tout, contre-programmation, et on vous diffuse les deux mesrines de Jean-François Richet.
Allez, bam,
l'un après l'autre.
Dans l'ordre,
voilà.
J'espère.
Dans l'ordre, bon, oui, quand même.
On sait jamais.
Quand
hein.
même, quoi. Quand même, quoi. Sur Arte, Western, avec La colline des potences de Delmer Daves, The Hanging Tree, avec Gary Cooper, Maria Schell, Carl Malden, George C. Scott, le casting est magnifique, le film l'est tout autant. Quoique, si vous voulez voir du western où ça dépote, où il y a des poursuites, des trucs comme ça, c'est pas ce genre de western. Là, c'est plutôt du western romantique, sentimental, parce que bon, Maria Schell est aveugle, et donc Gary Cooper et tout, quoi, il va l'aider, il va se prendre de passion pour elle, alors ça va être un petit peu troublant, c'est pas trop, enfin, bref, quoi, voilà, hein, c'est ça. Mais c'est quand même un très beau western. Sinon, demain sur Syfy à 20h45, Vampire Nation de Todor Chapkanov avec Ben Lambert et Andrew Lipotz. Bon, ça vaut pas trop le coup, hein, je vous le dis franchement. Et sur TCM, TCM qui
continue. Pourquoi t'en parles?
Non, mais parce que les jeunes filles en fleurs qui ne jurent que par les films de vampires et les séries de vampires, elles vont se mettre dessus.
D'accord, et oui, parce qu'il faut.
Il faut penser à tous les publics.
Exactement.
Thomas.
Non, tu as bien raison.
Il faut penser à tous les publics. Sur TCM, justement, tu vois, le contre-pied. Sur TCM qui poursuit sa rétrospective de l'œuvre de Chaplin. À 20h40, Le Dictateur. Le film de 40, donc, avec Chaplin, Paulette Godard. Et à 22h45, Chaplin, le film de Richard Attenborough en 92, avec la magnifique prestation qui a fait connaître au monde entier un certain Robert Downey Jr. dans le rôle de Chaplin, et où il était vraiment excellent. Hein. Le film est très très bien, d'ailleurs. Lundi, sur Canal Plus décalé, de l'anglais qui bourrine, Welcome to the Punch à 20h50, de Evan Creary, avec Mark Strong, James McAvoy, David Morrissey. Ça dépote pas mal et tout, et Evan Creary, c'est un clipper au départ. C'est un type qui a également fait de la mise en scène au musical à Londres. C'est également un type qui a fait un premier film qui a assez bien marché, qui a été encensé par la critique, et ça c'est son second film. Donc il est assez jeune, hein, ce type. Il est dans la trentaine, quoi. Arte vous propose lundi à 20h50 Les Envoûtés de John Schlesinger, hein, que je croyais que j'ai regardé un petit peu et tout, quoi. J'ai recherché un petit peu. Et je savais pas qu'il était anglais. Je pensais qu'il était ricain, mais enfin bon, non, il est anglais. John Schlesinger, hein, Les Envoûtés, c'est une histoire de vaudou avec Martin Sheen, Robert Loggia, Jimmy Smith, Helen Shaver et tout. Mais John Schlesinger, c'est quand même le mec qui a fait Midnight Cowboy. Ou Macadam Cowboy en français.
Oui, oui.
Hein,
très
et qui
bien.
A fait Marathon Man, entre autres.
Oui, oui,
hein. Bon,
entre
donc
autres.
Voilà. Mais là, bon, ouais. C'est film 87, c'est la fin de sa carrière. Il s'arrête en 92, je crois, un truc comme ça, quoi. Donc là, bon, ok. Mais le film est quand même assez intéressant. Hein, et Martin Sheen, ça va, quoi. Il se démerde quand même pas mal. Lundi, toujours sur W9 à 20h50, Limitless, le film de Neil Burger avec Bradley Cooper, De Niro, Abby Cornish, Anna Friel. Qui est vraiment sympa, il y a un pitch qui est vraiment très très intéressant, hein, qui est assez bien exploité, je trouve. Et bon, le film se laisse vraiment très très bien regarder. Et pour toutes celles qui aiment Bradley Cooper, il n'y a pas de problème, il est dedans du début jusqu'à la fin, quoi.
On le voit bien.
Même si de temps en temps il s'en prend dans la gueule, quoi, mais c'est pas grave. Sur Jimmy, nouvelle série, Ray Donovan avec Liv Schreiber et John Voight dans le rôle de son père, Polar, donc avec les deux premiers épisodes, c'est lundi sur Jimmy à 20h45. Lundi toujours Sur Ciné Plus Classique, à 20h45, Attaque de Robert Aldrich, un film de guerre. Donc, titre original, c'est également Attaque, d'ailleurs, avec Jack Palance, Eddie Albert, Lee Marvin, Richard Jekyll. C'est pendant l'invasion et la contre-attaque allemande quand les Américains sont déjà installés en Belgique. Et là, c'est surtout un film un peu plaidoyer sur la responsabilité du supérieur et des petites choses comme ça et tout, quoi. Avec bien sûr le capitaine chef de section qui est un lâche, avec le lieutenant qui veut sauver ses gars, un petit peu les trucs qu'on a l'habitude de voir et tout, quoi. Mais qui, à l'époque, en 1956, c'était un petit peu chaud d'évoquer quand même ce genre de choses-là, de critiquer un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de l'institution militaire. C'est suivi sur Ciné Plus Classique lundi. Donc ce film Attaque par Le Commando des Tigres Noirs, là c'est un autre registre, Ted Post, Chuck Norris, James Franciscus, Dana Andrews, Anne Archer, mais ça se laisse également regarder. Lundi toujours sur Ciné FX à 20h50, un Scanner Darkly de Richard Linklater, un film animation, il y a un mélange quoi avec Keanu Reeves.
En clair, faut pas prendre de drogue, il n'y a pas besoin.
Winona Ryder et Robert Downey Jr. Suivi de... C'est une soirée Keanu Reeves, mais enfin le deuxième, on peut s'en dispenser. Hein, c'est Johnny Mnemonic également avec... il y a Ice-T dedans, quoi.
Il y a Takashi Kitano de Lundgren.
Mais c'est une très 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 mauvaise adaptation d'une nouvelle de William Gibson qui pourtant est très bien. C'est dommage.
Moi j'ai pas kiffé du tout, quoi. Vraiment, quoi. Je me suis forcé à le regarder, mais bon. Sur Action, lundi toujours, Les Coltes au Soleil.
T'inquiète, t'as un autre navet avec Inouris qui va venir au cinéma là avec des Ronin.
Ouais. Les Coltes au Soleil, donc sur Action lundi à 20h50, Un Man Called Noon. Avec Richard Crenna, Rosanna Schiaffino, qui était une des actrices italiennes en vogue à l'époque, surtout parce qu'elle savait bien jouer et que ses formes étaient généreuses dans la lignée des Sophia Loren, Claudia Cardinale et autres, tu vois, quoi. Et c'est un film de Peter Collinson. C'est un Anglais qui est mort très jeune. Il est mort à l'âge de 43 ans, né en 38, mort en 81. Et c'est un western assez violent quand même. Donc 1973, Les Coltes au Soleil, où Richard Crenna, il est un peu dur, on va dire, quoi. C'est la période où justement il y a une espèce de soi-disant renouveau du western et tout, avec justement le recours à la violence, c'est-à-dire que on a vu que dans les western spaghetti, les western traditionnels, ils l'avaient un petit peu dans le baba, quoi, donc parce qu'ils étaient un petit peu trop gentils, trop paternalistes, trop tout ce que tu veux, quoi, alors que dans les Italiens, ça dépotait, ils en avaient plus ou moins rien à foutre, et là, ils se disent on va faire des trucs un petit peu plus heavy, et c'est le cas avec ce Colt au Soleil. Peter Collison, c'est également le mec qui a fait The Italian Job, ou L'Orse Bar, le titre original en 69, et une version des Deep Tinègres qui est aussi un petit peu heavy, on va dire. Il y a quelques meurtres à l'intérieur qui sont bien... on sent que le mec, il a regardé également le cinéma italien de l'époque, quoi. Mario Bava, Fulci, tous ces mecs-là, parce que
pauvre Agatha Christie qui aimait des meurtres assez clean, assez propre. Ouais. Ah là là.
Voilà, donc ça c'est lundi. Mardi sur D17, alors là, c'est soirée catastrophe avec à 20h50. Séisme imminent de Robert Friedman avec Janet Gunn et Jack Scalia, et à 22h30 SOS Avalanche de Paul Ziller, c'est le mec qui a fait Tornado Apocalypse aussi, avec Ed Marinero, Nick Mancuso et Wolf Larson.
T'as pas besoin de préciser, tu dis film, tu dis soirée catastrophe, à partir du moment où tu dis D17, c'est une soirée catastrophe.
13ème rue vous propose The Contractor de Joseph Rusnak avec Wesley Snipes et Lena Headey. OCS géant mardi toujours à 20h40 vous propose Ulysse de Comencini de Mario Camerini avec Kirk Douglas, Silvana Mangano et Anthony Quinn sur FX. FX qui a une bonne programmation cette semaine, je trouve d'ailleurs.
Ils mettent les moyens.
À 20h50, Frankenstein s'est échappé de Terence Fisher en 57 avec le duo Cushing Lee. Et sur Polar, une soirée consacrée à Robert Moore. Robert Moore, c'est un mec qui a fait 3 films dans sa carrière. Il est plus connu comme producteur, metteur en scène de théâtre également. Lui, c'est plutôt Broadway, puisqu'il est américain. Il a d'ailleurs obtenu un Tony Award, c'est-à-dire un award pour le théâtre ou pour la comédie musicale, quoi, pour une de ses réalisations. Et j'en ai déjà parlé, quoi, parce qu'il a fait un film qui est vachement connu, c'est Un cadavre au dessert, Murder by Death. En plus, avec le titre Murder by Death, quoi, forcément, tu dis.
Forcément.
Alors, c'est un pastiche, donc, où un riche milliardaire invite 5 détectives qui vont prendre les traits de personnages, les archétypes des détectives, à savoir, il y a Bogart, il y a Charlie Chan, il y a Sherlock Holmes, il y en a encore un autre et tout, quoi, qui sont interprétés par Peter Falk, David Niven, Truman Capote. Peter Sellers qui fait Charlie Chan, ça vaut son besoin de cacahuètes.
Oh putain.
Alec Guinness, enfin bon, il y a déjà le casting d'enfer. Et puis bon, c'est vraiment le film pastiche, à fond les manettes, avec le casting assez incroyable. Et donc ce film est sorti en 76 et il récidive 2 ans plus tard avec Le Prix de ses dames, mais qui est moins intéressant, on va dire. Il y a quand même encore Peter Falk, il y a Anne-Margaret, Stockard Channing, Fernando Lamas, le père. Et Scatman Crothers, entre autres. Donc. Et c'est une soirée donc, de polar avec ces deux films au programme, l'un après l'ordre et dans l'ordre d'apparition ou de diffusion, si vous préférez. Mercredi, on a sur France 2 un nouvel épisode, c'est le deuxième diffusé de Vaughan, la nouvelle série avec Olivier Marchal en avocat sur le retour. Là, il y a dans cet épisode qui s'appelle, dans ce téléfilm qui s'appelle La 9e Manche, Arthur Junio et Virginie Hawk, qui sont aux côtés d'Olivier Marchal. C'est mercredi sur France 2. Sinon, sur D17, à 20h50, Universal Soldier, Régénération. Donc celui avec JCBD et Dolph.
C'est celui où il y a Scott Adkins aussi.
Oui.
C'est le nouveau.
Oui, c'est le nouveau, ouais, le nouveau 2003, quoi.
Ouais. Ah non, je crois qu'il y en a un encore nouveau qui est sorti après. Pas 2000. Il y en a eu un plus récent. Il faudra vérifier sur le
mais
net.
Sans tiens. JCBD, alors.
Si, il y a toujours JCDB encore.
Ouais. Ok. Alors, c'est suivi à 22h30 mercredi prochain sur D17 de Against the Dark de Richard Crutz.
Contre le noir.
Ouais, un Steven Seagal avec Tanoï Reed et Jenna Harrison. Et c'est le premier film où Steven, il doit dégommer du vampire.
Ah ouais,
excellent. Il est comme ça, Steven.
Comme il a une planche en bois en guise de tête.
Ça va casser du croc aiguisé, mon gars.
Ah ouais. Et alors, c'est quand ça, t'as dit?
Alors ça, c'est mercredi sur D17 en deuxième partie de soirée.
Oh putain.
Against the Dark.
Il le note.
Par contre, mercredi, il faudra quand même jeter un coup d'œil sur 13e rue à 20h45 sur la nouvelle série anglaise de Arthur Kubik. Qui n'est pas un inconnu, d'ailleurs, tu dois certainement connaître, monsieur Kubit, cher ami Xavier. Non,
ah non, mais
il ne
demande pas la mémoire des noms.
Ok, c'est une mini-série qui a connu un tel succès en Angleterre qu'ils ont dit « Ouais, on va faire une saison 2 ». C'est comme Broadchurch, tu vois, le même truc. C'est la nouvelle série dans laquelle on retrouve Gillian Anderson.
Dana Scully.
Yes, dans le rôle d'une inspectrice détective.
Ah oui, pardon, avec l'accent, j'avais pas tweeté.
D'un tueur en série, l'originalité de la série, c'est qu'on suit en parallèle les agissements du détective et du tueur.
Donc on sait qui c'est, voilà.
On sait qui c'est, c'est Jamie Dolan.
Sauf que malheureusement, la série n'a pas du tout de bonnes critiques et elle n'a pas été renouvelée d'ailleurs, il me semble.
Si, justement, quoi. Ils l'ont renouvelée finalement. Donc ça, c'est sur 13e rue, mercredi prochain, 20h45. AB1 vous propose le film de Wynorski, Komodo versus Cobra, avec Michael Paré et Michel Bors. Et sinon, sur OCS Max, un petit Dark Knight Rises à 20h40.
Très
jeudi,
bien.
France 4. Devine qu'est-ce que Xavier va faire jeudi prochain.
Jeudi prochain,
jeudi soir.
Il doit y avoir du
à 20h45 sur France 4. Ce n'est pas Docteur Who, c'est l'autre.
Voilà.
Sherlock inédit à partir de 20h45.
Suivi de 2 documentaires.
Le cercueil vide, donc à 20h45. Suivi à 22h15 de L'Enquête, un documentaire d'Alain Carazé et de Romain Niguita sur les coulisses de la série Sherlock. Donc, et à 22h40, L'Héritage de Paul Bernays. Ça, c'est un documentaire anglais de 2013 et qui raconte un petit peu, qui essaye d'évoquer un petit peu les influences que Sherlock Holmes a eues sur les techniques policières actuelles. Donc un documentaire qui peut être aussi très très intéressant. Bon, si ça vous intéresse pas trop, Sherlock jeudi prochain sur Syfy. Il y a également The Legend of the Boogeyman de Jeffrey Scotlando. Alors là, tout de suite, quand c'est Scotlando, on se dit ouais, cool, on se jette dessus. Ça va être le bon nanar avec Eddie McKinton, Mac Clintock, et Anna Bailey. Sur OCS Géant, on a la Rose pour Duker, qui est un excellent Woody Allen Woody Allen en 85, avec Mia Farrow, Jeff Daniels et Danny Aiello, entre autres. Vraiment, c'est un très très bon film.
Ah oui, vraiment agréable et très fun.
Ouais. La nostalgie, la magie du cinéma, le retour au roman d'aventure, au film d'aventure,
la
période du muet, très très beau film.
Je trouvais aussi qu'il avait un petit peu une ambiance justement Agatha Christie, tout ça, on retrouve tout ça, c'est vraiment agréable.
Ouais, mais avec les on va pas dévoiler c'est dommage quoi, mais bon, avec justement cette espèce de renversement là qui font que ça participe justement à la magie, c'est-à-dire qu'à un moment le spectateur, quand tu es dans le cinéma, quand tu le vois au cinéma, le spectateur se dit peut-être que je pourrais faire un petit peu pareil à un autre réalisateur qui l'a évoqué également dans un autre film dont nous tairons le nom, parce que sinon on va dire qu'il a copié dessus quoi. Et ce serait dommage quoi, parce que c'est quand même un très bon réalisateur, Monsieur McTiernan, avec The Last Action Hero. Il exploite un petit peu le même système. Sur Polar, jeudi prochain à 20h50, notre agent à la Havane, tiré du roman de Graham Greene de Carol Reed. Alors Carol Reed, il fait un film qui est tout à fait expressionniste, Le Troisième Homme, avec Orson Welles dans les années 40, ou fin des années 40, et là en 59, il adapte ce truc. Là, c'est vraiment de la comédie avec Alec Guinness, Noël Coward, Maureen O'Hara et tout. Il adapte le bouquin qui est un peu plus dur, on va dire, moins ironique, et puis là, vraiment, il en fait une comédie bien servie, bien sûr, parce qu'il y a Alec Guinness et des super comédiens, Noël Coward aussi. Donc ça, c'est jeudi sur Polar à 20h50. On termine avec vendredi, et tu vois, on va pas être à la bourre. Du tout. Avec Ciné Plus Premier vendredi prochain, qui vous propose à 20h45 Kingdom of Heaven de Ridley Scott.
Il est super ce film.
Bloom, Irons, Neeson et bien d'autres. Bon film de.
Et Eva Green.
Oui, pourquoi pas quoi.
Edward Norton.
Hein ?
Il y a Edward Norton aussi.
Ah ouais.
Mais on le voit pas parce qu'il est lépreux, il a un masque. Mais c'est vrai.
C'est qui ce tu spoil hein?
Alors sinon, toujours vendredi, Ciné Plus Frisson propose à 20h45 The Murderer de No Hong Jing, qui nous avait fait 2 ans auparavant The Chaser.
Voilà, je m'en suis pas remis de ce film.
Là c'est le film de 2010 avec Kim Young Seok et Ha Young Wo. Ciné Plus Classique vous propose, c'est le deuxième vendredi qui vous le propose, une soirée spéciale d'Harry Cole avec tout d'abord à 20h45 Le Grand Bidule de Raoul André en 67 avec le casting qui tue. Ça, c'est la comédie à la française, les films comiques, les comédies à la française qu'on savait faire dans les années 60. Sans aller jusque dans la veine des Lautner qui étaient aidés par des Audiard et tout, mais dans une veine un petit peu plus traditionnaliste. Mais il y avait des films comme ça, mais qui étaient vraiment excellents, quoi, où tu te pisses dessus de rire des fois et tout. Parce que quand t'as Francis Blanche, Larry Cole, Micheline Dax, Jean Poiret, Michel Serrault, et encore, je parle pas des seconds rôles, des jeunes premiers, des trucs comme ça qui sont également dans le film. Et le grand classique, après Le Grand Bidule, le grand classique de Darry Cole qui a révélé Darry Cole en 57, Le Triporteur, bien sûr, avec Jean-Claude Brialy, Pierre Mondy, film de Jacques Pinotto en 57. Ça, c'est sur Ciné Plus Classique vendredi prochain. OCS Choc vous propose 2 JCVD, c'est également le deuxième vendredi qu'ils font ça. Tout d'abord, Coup pour Coup, le film de Sarafian. De 90 qui est pas mal, et ensuite un peu plus dispensable, Le Cyborg de Albert Pyun.
Regarde la gueule de Thomas.
Okay. Allez, on va terminer avec un excellent Seagal, Seagal en écolo. Terroriste. Terrain miné. Johan Chen, Michael Caine, Robert Lee Hermet, Billy Bob Thornton. Ça a de la gueule, et je te parle même pas de John Trudell qui est dans le film, mais personne ne sait qui c'est ce mec. Alors c'est pas grave, mais c'est quand même un des personnages pour lequel Steven Seagal a voulu faire le film. d'ailleurs, il a beaucoup insisté pour qu'il soit dans ce film. Et ça, c'est la petite virgule supplémentaire qu'on rajoute en fin d'émission, généralement. Quoi.
Oui.
Parce que John Trudell, en fait, est un militant archi-connu de la cause indienne. Mm. Un type qui a passé des années en tôle pour quelque chose, un crime, enfin, un truc qu'il n'avait pas commis, injustement condamné, enfin, tout le bordel. Aux États-Unis, on a l'habitude. Mais en plus, quand il s'avère qu'il s'agit d'un militant de la cause indienne qui a été vraiment un activiste, quoi, un petit peu légal, des grosses figures des Black Panthers quoi pour les Noirs américains à l'époque des Black Panthers, eh bien ça a beaucoup d'importance, tout le monde connaît aux États-Unis qui est John Trudell, et donc monsieur Steven Seagal a voulu qu'il joue dans le film, qu'il soit dans le film, et il y a également un autre type qui est dans le film, c'est un musicien qui s'est suicidé peu de temps après, quoi, pas à cause du film, hein, et qui était un musicien originel de The Band, le fameux groupe qui avait accompagné Bob Dylan dans les années 60 jusqu'à The Last Waltz au milieu des années 70.
Merci, ça me fait en plus du coup, ben, parce que du coup on n'a pas besoin de mettre le bonus.
Ben ouais, c'est ça le bonus. Hein.
Voilà.
Merci du sport pour ce
mais
bonus.
Déjà que j'enfile beaucoup des bonus dans ma rubrique.
Tu oui, sais que c'est un vrai fond sonore à part. Hein, et c'est, enfin bon, et pas plus de 30 secondes c'était l'idée, mais tant pis. Sinon, juste news de toute dernière minute. En fait, petite erreur de ma part, effectivement, les 23h de la BD c'est 24 planches et c'est à partir de 13h. Et la contrainte est sortie, donc il y a une vingtaine de minutes, à savoir, seuls les animaux ont le droit de parler pendant toute la BD. Et attention, l'humain ne compte pas comme animal. Ça promet, ça va être quelque chose, à mon avis, d'assez marrant. C'est Maliki, d'ailleurs, qui a illustré la contrainte d'une manière très sympathique. C'était le supplément week-end numéro 380, il me semble.
Ouais, jouette. Dans 20 semaines, la 400e.
Eh ben, on vous promet du lourd.
400 émissions, tu te rends compte ?
Ouais. Thomas, est-ce que tu peux faire un résumé justement pour ceux qui ont pris ce programme en cours d'arrivée de route ?
Eh ben voilà, s'ils sont arrivés en cours d'arrivée de route, ils ont loupé de la news en gros paquet, du lion muet, de la cape, une vache, des ninjas, des Audi, du film de guerre de Pépère, des marionnettes Steven contre des vampires, du bon nanar, du docteur. Et non, c'est l'autre, du bidule et un petit bonus cigale avec un minou. Je n'ai pas compris le rôle du minou.
Terminé.
Ah, d'accord.
Parce qu'on fait Steven Seagal, terminé.
Mais ça, c'est il y a que toi qui fait ces sketchs en accord avec toi-même.
Non, d'une grande incompréhension, vous avez manqué tout ça. Et en plus, vous n'êtes pas rendu compte qu'une news était bidon. Ah, mais vous loupez le 1er avril. Mais heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites. Laissez vos commentaires, posez vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré, supplémentweekend.fr, et vous aurez, ma foi, la joie de mieux décoder cette émission au ralenti.
En tout cas, n'hésitez pas à aller nous voir sur les réseaux sociaux parce qu'il nous arrive de poster des images. Donc si vous voulez avoir la couleur derrière le micro, je vous encourage à aller nous voir sur Twitter, Google+, et Facebook.
Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et nous ouvrons tout à l'heure, pendant le stream, je crois, sur www.radio-fmr.net, nous inaugurons notre salle d'exposition. Dans le prochain épisode de mon côté, il y aura un jeu de vidéo hyper réaliste.
Eh ben moi, je ne sais pas du tout.
Et du sport, lui, il s'en fiche, il prépare son programme de tout à l'heure. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao à vous, bye bye. Attention aux poissons et je vous promets du lourd ce lundi avec un pain somme sur pourquoi les acteurs français préfèrent la publicité au cinéma.
Je vois très bien à qui tu penses.
Non, il y en a plusieurs.
Oui, mais à qui c'est plusieurs. Auquel
auquel, oui. Oui, je préfère. Et la suite de nos programmes en direct tout à l'heure à 14h avec du sport.
money. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the